Je répète ensemble des sujets que nous allons essayer d'étudier, du moins d'explorer cette semaine, concerne le problème moral. Un des aspects du problème moral est en particulier la définition du tzaddik, c'est-à-dire la définition du juste. Et c'était relié, comme je vous ai dit déjà hier soir, c'était relié à l'enseignement de la Sidra de la semaine, puisque vous avez dû remarquer que la Sidra qui traite d'abord de l'histoire de Noé et ensuite aboutit à l'histoire d'Abraham, au commencement de l'histoire d'Abraham, c'est dans ce texte que pour la première fois ce terme de tzaddik, que l'on traduit habituellement en français par le juste, apparaît dans le texte de la Bible. Vous voyez, comme d'habitude, il faut quelque temps pour que ça s'éclaircisse, mais ça va arriver. Et comme nous avons peu de temps à passer ensemble, alors nous avons pensé que la meilleure des choses, ce serait de vous permettre de disposer de certain nombre de thèmes, de méthodes, bien entendu à travers un certain contenu, mais beaucoup plus que le contenu proprement dit. J'ai essayé de rapprocher un certain nombre de textes, de thèmes classiques, de la manière dont se pose le problème moral pour la tradition juive, ce qui vous permettra, dans la suite de vos études, de rassembler et, comment dire, des thèmes de méthode analogues qui vous permettront de récapituler les connaissances de contenu que vous pourrez avoir dans les différents secteurs de vos études, tant dans les textes traditionnels que dans les textes philosophiques, que dans les différentes analyses que vous aurez pour tel ou tel problème dans l'ensemble de votre programme. Pour ce soir, le sujet a été formulé de la manière suivante, les étapes de l'acquisition de la conscience morale. Il y a là, déjà, du point de vue du sujet lui-même, tout un certain nombre de postulats que je vais très brièvement énumérer en introduction. Et en particulier, un premier thème, un premier postulat, si vous voulez, que nous rencontrons très souvent dans la manière dont les commentateurs traditionnels de la Bible nous font découvrir ce qu'a été la conscience hébraïque. En ce sens que, en tant que juif, en tant que judaïsme, si vous voulez, nous avons toujours un effort préalable à faire qui consiste à reconquérir, à récupérer les contenus et les évidences de base de la conscience hébraïque proprement dite. Les années précédentes, nous avons abordé de différentes manières ce problème, ce thème, si vous voulez. Bien entendu, les juifs en particulier ont une certaine, comment dire cela, facilité à se raccrocher à la conscience hébraïque, puisqu'il y a une fidélité, je pourrais même dire, bon, il faudrait nuancer, une hérédité spirituelle qui rattache les juifs aux hébreux. Les hébreux ont été des hommes, enfin, les hébreux, nos ancêtres, si vous voulez, ont été des hommes qui ont vécu il y a très longtemps, et dans un temps où, selon le récit de la Bible, la révélation était un fait d'expérience. Les juifs ont une médiation à traverser pour se remettre au niveau des évidences de la révélation hébraïque, et c'est ce que nous appelons l'étude de la Torah. Nous devons passer à travers tout un contenu de connaissances élaborées qui est la médiation entre la conscience juive et la révélation qui a été faite aux Hébreux. Et il y a un certain nombre de constantes qui se découvrent à travers toute la tradition juive, et elle est, comme vous le savez, très longue du point de vue de sa durée. Bien entendu, il y a, je n'oserais pas dire des tempéraments différents, ce serait trop exagéré, il y a des écoles différentes, des méthodes d'approche différentes de ce même contenu hébraïque, cela se distribue d'après les familles spirituelles qui se retrouvent aussi à l'intérieur d'Israël et de la société juive, mais quoi qu'il en soit, il y a un certain nombre de constantes très importantes que je formulerai d'abord sous forme de postulat, c'est-à-dire un peu du point de vue du principe d'autorité, nous aurons à redécouvrir ces évidences à travers les analyses de l'étude de texte, et puis nous aurons aussi à en discuter ou à y réfléchir tout à l'heure. Un des postulats les plus fondamentaux, c'est que l'essentiel de la révélation qui a été faite aux Hébreux, et donc de la ligne de force principale de l'identité juive qui en est l'héritière, est que cet essentiel concerne le problème moral et la conscience morale. Nous avons là toute une série d'équations, de formules que nous retrouvons sous une forme ou sous une autre dans les différentes écoles. Je vous dirai très simplement comment on pourrait le formuler. Nous avons déjà étudié un peu cela cet après-midi sur un texte de Talmud. c'est que l'essentiel de ce que Dieu avait à dire à l'homme après la création, pendant l'histoire, lorsque la révélation a été faite, l'essentiel, c'était de lui expliquer le fonctionnement de la loi morale comme, si j'ose dire, règle du jeu de l'histoire du monde. C'est une des intuitions hébraïques fondamentales. Et que la religion, à proprement parler, est la religion de la loi morale. Il apparaît, si vous voulez, toute une organisation de la sagesse juive autour du problème de la moralité qui est très spécifique et qui parfois va à contre-courant de ce qui, pour nous, du point de vue de la civilisation générale, de la culture générale, comme on dit, semble être des évidences, mais qui ne sont pas du tout les évidences de base de la conscience juive à proprement parler. D'où cet aspect, si vous voulez, différent, pour le moins, que la conscience hébraïque, puis la conscience juive, a dans l'histoire des civilisations. C'est, je crois, un principe extrêmement important à avoir à l'esprit pour pouvoir suivre ces différentes analyses. Et si nous formulons ainsi le sujet, les étapes de l'acquisition de la conscience morale, cela renvoie à un problème de l'histoire biblique. Ce n'est pas pour rien que la Bible, je vous le rappelle souvent, la Bible commence par raconter à sa manière, d'après des principes de sa propre cohérence, commence par raconter la constitution littéralement anthropologique de l'identité de l'homme jusqu'à un certain stade où une sorte de maturité morale apparaît dans l'humanité au niveau de la société d'Israël et où on pourrait d'une certaine manière considérer comme acquise ce que l'on appelle la conscience morale. Une petite interruption pour vous permettre de vous asseoir. Vous me fatiguez si je vous vois debout. Alors, trouvez des chaises. C'est la conscience morale. Bien, je pense que vous avez projeté de consacrer votre soirée à cette étude, parce que ça risque de durer un peu, surtout si vous avez des questions. Bien, malgré tout, et du point de vue de la culture générale, de la manière dont habituellement on a l'habitude de poser ce problème, dans l'histoire de la philosophie ou dans l'histoire de la théologie, ça se rattache à un problème général qui est le fait de se poser la question suivante. Est-ce que ce que nous appelons la conscience morale, c'est-à-dire cette capacité propre à l'homme du jugement de valeur, d'évaluer sa conduite par rapport à des absolus, par rapport à des critères de valeur morale, est-ce que cette conscience morale est acquise ou innée? Vous avez dû certainement rencontrer dans votre découverte des problèmes de la sagesse, ce problème qui est important. Alors, encore une fois, sous forme de postulat, et puis nous reviendrons peut-être là-dessus si c'est nécessaire, d'après l'enseignement de la Bible, il semble que l'on puisse dire de façon schématique que la conscience morale, comme fonction, est innée, mais comme connaissance, est acquise. Et c'est-à-dire que les deux choses sont à la fois vraies. Il y a une fonction du jugement de valeur qui est donné, semble-t-il, au niveau de la nature même de l'homme, et c'est en cela que l'homme est différent des autres êtres vivants. Si vous voulez, on pourrait dire de la manière suivante, si nous voulions identifier le premier être que la Bible appelle homme, que la Bible appelle Adam, c'est par le critère de la conscience morale qu'il s'identifie, beaucoup plus que par des critères d'ordre biologique ou d'ordre évolutionniste, si vous voulez, ou d'ordre zoologique plus exactement, ou d'ordre physique. Et très très brièvement pour éclairer ce point. Et donc, premier point, si vous voulez, du point de vue de la fonction de capacité de moralité, eh bien, cela semble être inné. Je parle de l'enseignement de la cohérence biblique. Je sais bien que c'est contesté par certaines écoles philosophiques ou dans d'autres religions même théologiques. Enfin, admettons encore cela comme postulat. Je voudrais simplement l'éclairer très brièvement, ça rappellera à certains d'entre vous, je suppose, d'autres analyses que vous ferez traverser, dont vous ferez traverser ce sujet. Vous rappelez de ce récit de la Genèse où la première situation de moralité nous est racontée pour l'homme dans la perception de la nudité. Et semble-t-il que la première valeur morale qui a été découverte par l'homme, c'est cette phrase où la Torah nous dit « et ils virent qu'ils étaient nus ». Il y a dans la Gemara une question, à la manière du Talmud, même un aveugle peut voir qu'il est nu. Et qu'est-ce que ça veut dire donc qu'ils virent qu'ils étaient nus? Ça n'a pas de sens. Et la Gemara explique que lorsque le texte de la Bible, l'hébreu biblique, dit part de la nudité, cela veut dire être privé de mérite. Comme si l'identité humaine était au niveau de son être de nature, par nature, nu, dénudé, et que le problème de l'histoire morale consiste à l'habiller, et à l'habiller de revêtements. C'est une catégorie très importante en hébreu pour dire la valeur morale essentielle qui est celle du pardon, kapara, et bien en hébreu, l'echaper, ça veut dire recouvrir, ça veut dire habiller. Hein? Comme si la nudité était la perception de, non pas de l'immoralité, mais du manque de vertu. Et le Talmud explique, ils avaient un seul commandement par rapport auquel ils avaient à se justifier, admettre comme critère de valeur les critères du Créateur. Ils ont préféré les critères propres à l'homme. Ou si vous voulez, il y a eu une tentative même, de substituer une immanence à une transcendance. Je pense que ça peut être dit de cette manière, alors que les véritables critères de la valeur morale sont transcendants, c'est-à-dire le bien, c'est comme le Créateur a vu le bien. Si le bien, c'est uniquement comme la créature voit le bien, alors on peut, si vous voulez, pendant longtemps être occupé à une culture de ce type, mais finalement on arrive à un stade, à un temps de la culture où on sera déçu, parce que si le critère de la valeur n'est que ce que l'homme formule, alors que ça, finalement, l'ennui arrive. Et étymologiquement, être ennuyé, ça veut dire être nu, dans l'étymologie même. Et non seulement l'ennui, mais la déception, la conscience tragique. Si le bien, c'est finalement que ce que moi, homme, je pense être le bien, alors en fin de compte, le monde, on peut être distrait par un type de culture de ce genre pendant longtemps. Mais finalement, le monde est privé de sens. Si le sens que le monde aurait est uniquement le sens que moi, je peux y découvrir. Il y a toute une épaisseur de culture humaniste de ce type. Il n'en reste pas moins que le diagnostic de la conscience hébraïque a été, bien évidemment, de préférer des critères d'une morale transcendante aux critères d'une morale immanente. Les choses ne sont jamais aussi simples, mais il y a une polarité, il y a une préférence. Et le Talmud explique donc qu'il y avait un seul commandement, une seule mitzvah, par rapport à laquelle l'identité humaine avait à faire sa preuve, à se justifier, et puis, ayant échoué, alors le premier être humain a vu qu'il était nu. Et c'est de là, de cette expérience, que commence l'acquisition du contenu des valeurs morales en tant que connaissance morale, puisqu'il s'agit de la pudeur. Effectivement, tout se passe comme si la Bible nous dit que le premier être capable de pudeur, c'est cela, l'homme. Parce que la pudeur, c'est le commencement de la conscience morale, c'est le commencement de la vertu. En ce sens que la pudeur se dit, dans ce sens-là, en hébreu, tzniout, mais du point de vue des conduites morales, ça s'appelle irat shamayim, ou irat chet, le fait de respecter les valeurs. Les valeurs se découvrent dans une expérience de pudeur. Qu'est-ce que c'est exactement que la pudeur? Comme si les valeurs étaient exposées, vulnérables, pouvant être violées, données à être violées, et être morale, c'est avoir peur de cela et recouvrir cette nudité des valeurs. Et donc l'expérience que nous décrit la Bible dans ce premier texte nous montre bien qu'elle entend par Adam, que nous traduisons par homme, le premier être capable de moralité. En ce sens-là, sur ce premier point, en tant que fonction de jugement de valeur, et cela commence par Irat Shamaïm, Irat Het, la crainte, la terreur même de violer la valeur, parce que la valeur est violable, si j'ose dire, eh bien, et c'est l'expérience de la pudeur. C'est pourquoi la Gemara dira très souvent, on enseigne la sagesse qu'à ceux qui sont capables de pudeur. Parce que si on n'est pas préalablement capable de pudeur, toutes les valeurs de la sagesse peuvent être violées, et plus on est intelligent, et plus c'est grave. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Plus on est capable de l'intelligence ou de raison, s'il n'y a pas d'abord la pudeur, et plus la civilisation humaine devient barbare, tout civilisée qu'elle soit. Mais, indépendamment de cette forme générale et universelle qui caractérise l'identité humaine, en tant que fonction, il y a un problème de contenu de connaissance morale. Et le contenu des connaissances morales, celui-là, est acquis. Il y a une histoire qui est une préface à la Torah comme loi, et cette préface a plusieurs fonctions, plusieurs finalités, mais d'abord elle répond à notre première question, c'est qu'il y a eu un effort à l'intérieur de l'histoire humaine d'acquisition de la valeur morale, un effort pour devenir ce que la Bible désigne par ce mot clé que nous allons étudier, le tzaddik. Que je vous écris ça en carré ou en cursive ou, en carré. Bon. Vous voulez aussi les voyelles? Voilà. Bon. Alors donc le T est important parce que sinon c'est sadique, ça c'est autre chose. Eh bien, nous verrons qu'en fait, et la Torah nous donne une certaine conception du sadique, ça sera essentiellement l'objet de l'analyse de ce soir, mais que être sadique, et nous allons traduire donc provisoirement par juste, mais il peut y avoir tout autant de théories de qu'est-ce que c'est qu'être injuste, et nous avons déjà eu une approche de cela pour ceux qui ont assisté à l'étude de la Sidra de Noir hier soir, et qu'il y a une différence fondamentale, nous reprendrons ça dans un des autres cours, entre un juste selon Noé, Noir, et un juste selon Abraham, ou un juste selon les nations, et un juste selon Israël, en schématisant beaucoup, parce qu'il y a mille nuances possibles, mais malgré tout, nous allons découvrir, en rapprochant un certain nombre de textes, que être tzaddik, ce n'est quand même qu'une étape dans l'acquisition, disons, de la vertu à laquelle le message de la Torah, la révélation de la Torah nous invite, pour que la créature corresponde au projet du Créateur. Il y a là, dans tout ce que je vous dis, comme vous le percevez déjà, toute une série de postulats, c'est-à-dire des catégories d'évidences propres à la conscience hébraïque. C'est très difficile d'arriver à formuler cela dans une autre langue que l'hébreu, mais nous allons essayer, et par approximation successive, par approche successive. Je sais bien, et vous savez aussi par expérience, que tous ces mots-là ont une résonance, une connotation différente, suivant la religion à laquelle on appartient, ou la famille spirituelle, ou l'école philosophique à laquelle on appartient. Alors essayons de garder le sens fondamental, le plus simple de ces termes. Être injuste. Nous essayons d'arriver à une définition plus claire tout à l'heure, mais ce problème est important qu'il y a, et nous nous basons sur le récit de la préface historique à la loi, dans la Torah, dans le Pentateuque, il y a différentes étapes de la vertu. Pour arriver au fait que, comme je disais, c'est un point très important, si l'histoire a un sens, si l'histoire a une direction, une signification, si elle véhicule une espérance, eh bien, si l'histoire a une direction, eh bien, c'est une sorte d'invitation à la créature de correspondre par son propre acquis, par son propre mérite, mettez ça encore entre guillemets, au projet du Créateur. Le jour où il y aura coïncidence, alors nous serons deux à être satisfaits. Jusqu'à présent, il n'y a que le Créateur, semble-t-il, qui soit un peu satisfait puisqu'il a la patience d'attendre. On ne comprend pas ses raisons et ses motivations. Si nous avions, nous, à juger le monde, peut-être que nous déciderions le déluge, une fois de plus. Enfin, il semble que lui a des raisons d'attendre et d'espérer. Et la Torah nous dévoile un peu quelles sont ses raisons. Il y a toujours, quelque part, dans un point de l'être humain, où il y a toujours la possibilité que ça réussisse. On appelle ça en hébreu moderne « sablanout », c'est-à-dire « patience ». Mais en hébreu déjà classique, on appelle ça « tikva », c'est-à-dire « espérance ». C'est bien entendu une coïncidence que ce soit le chant national en Israël. Et nous avons ces différentes étapes, et donc la désignation des différentes identités des étapes de la vertu, dont une d'entre elles est le tzaddik, dans un petit passage de la prière du Shabbat matin et des jours de fête, que je vais vous rappeler très brièvement. Ça a été formulé un peu sous forme de poèmes et nous aurons donc à écrire quatre mots. Alors je vous lis d'abord le texte que vous connaissez, nous l'avons encore dit ce matin. C'est « Vefi Yesharim Ptit Romam » ou « Tsifte Tzadikim Ptit Barach » ou « Bilchon Chassidim Ptit Kadash » ou « Kerev Kedoshim Ptit Hala ». Alors, je vous traduis, mais ce sera surtout pour analyser et donner la définition de ces différentes étapes afin de cerner celle du tzaddik. Et ensuite, deuxième point, nous nous baserons sur un texte de Maïmonide, où Maïmonide, dans les Shmona Pratim, qui est un livre important d'introduction au Pirkei Avot, c'est-à-dire au traité de la morale talmudique, va comparer deux de ces étapes, le tzaddik et le chassid. Nous verrons ce texte brièvement. Ensuite, j'espère que nous aurons le temps, nous reprendrons des textes de la Gemara et de la Kabbalah en les comparant pour essayer d'arriver à comprendre les différentes étapes, encore une fois, de cet effort à laquelle la Torah nous invite pour réussir le projet de la moralité et dont une de ces étapes est appelée le juste. Alors dans ce texte que je vous traduis maintenant, le premier texte, c'est « Befi Yesharim Titrovam ». Vous savez, quand nous traduisons des textes liturgiques en français, ça devient très plat. À moins d'avoir le génie poétique, par exemple, d'Edmond Fleg, mais il était Yahid Bemilo. Peut-être que dans d'autres langues, cela devient plus direct. Enfin, ça dit plus. Mais en tout cas, ce ne sont pas du tout des synonymes. C'est en français que ce sont des synonymes. Alors, « Befi Yesharim Titrovam », que tu sois exalté par la bouche des Yesharim. Le Yashar, c'est l'homme droit, l'homme de rectitude, si vous voulez, l'homme de droiture. Et on peut avoir déjà une première définition. C'est une des premières étapes, une première acquisition de ce que nous allons appeler la conscience morale. Au fond, ça correspond à ce que l'on appelle la bonne volonté, la volonté droite. Celui qui, en toute chose, lorsqu'il a à juger de sa conduite, de la conduite qu'il a à de son comportement, préfère la voie droite. Mais nous verrons que ce n'est pas simple de savoir ce qu'est la voie droite. En tout cas, au niveau de l'intention, il y a déjà justification. C'est-à-dire un yachar, les yacharim c'est le pluriel, un yachar c'est un homme qui en toute occasion cherche à se conduire d'après la voie droite. Et évidemment, il n'y arrive pas toujours, mais il est défini comme yachar s'il en a déjà l'intention. Il suffit que l'intention soit de la bonne volonté, soit assurée, pour qu'on soit à ce niveau du yachar. Ce que dit ici cette liturgie, c'est que qui a le droit, si vous voulez, la question implicite de cette liturgie, c'est qui a le droit de dire la louange de Dieu dans la bouche de qui la louange de Dieu a un sens. Alors c'est à quoi ce texte répond, premier niveau, « Befi Yesharim Titrovam », tu es vraiment exalté, si ce sont les Yesharim, si c'est la bouche des Yesharim qui dit la louange de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Étant donné que une louange n'est vraiment une louange, ici c'est Romemut, c'est-à-dire dire le fait que quelqu'un est supérieur, Ram, élevé, élévation. Que s'il y a compatibilité entre celui qui parle et celui de qui on parle. Et là, il y a, si vous voulez, c'est plein d'humour d'ailleurs aussi, mais il y a une indication très sérieuse que la véritable louange dite par l'homme en parlant de Dieu ne devient authentique que si c'est un yachar qui dit cette louange. Et nous verrons aussi les autres étapes. Jusque-là, c'est clair. Ça nous rappelle un petit enseignement des Chassidim sur une Gemara concernant un psaume de David. Nous avons dans la liturgie le fait qu'on doit dire trois fois par jour un certain psaume. Je n'ai pas le numéro en tête, mais on peut demander au renseignement. Mais c'est un psaume qui commence par Tehillah le David. Le titre du psaume, c'est Louange de David. Alors nous avons une Gemara qui dit Haomer, Tehillah le David. Shalosh Pe'amim, Bayom, Muftahlo, Shehu Ben Aolam Abba. C'est un texte un peu explosif. Il dit, celui qui dit ce psaume, Tehillah le David, louange de David, trois fois par jour, on peut lui faire confiance qu'il aura le monde à venir. C'est un peu énorme. Ça, il suffit de dire le même psaume trois fois par jour, et la Gemara vous fait confiance que vous allez au monde à venir. Et il y a une différence lorsqu'on dit que quelqu'un est Ben Aolam Abba. Il est déjà comme s'il est fils du monde à venir, Ben Olam Abba. C'est-à-dire, déjà maintenant, on peut dire de lui qu'il n'y a pas de ce monde-ci, qu'il est du monde à venir, pas égaré, mais enfin, en voyage dans ce monde-ci. Ça, c'est Ben Olam Abba. Et celui qui a Haye Olam Haba, ou Ben Haye Olam Haba, ça veut dire celui qui, déjà, dans ce monde-ci, a le privilège de goûter de ce que est la vie du monde à venir. Dans la première expression, c'est son identité qui vient du monde à venir. Et dans la deuxième expression, c'est sa situation, qui est une situation du monde à venir. Et puis, Olam Haba, Haye Olam Haba, Ben Olam Haba, il y a des nuances très importantes. Mais quoi qu'il en soit, comme vous voyez, c'est un texte vraiment explosif. D'ailleurs, la Gemara ne se gêne pas pour surenchérir encore. La suite de cette Gemara, c'est une autre Gemara qui dit « Celui qui fait quatre pas en Eretz Israël, on peut compter sur lui qu'il ira au monde à venir. » Et ça aussi, c'est exagéré. Donc, toutes ces choses-là ont un sens. Et pour la première citation, pour la première Gemara, je voudrais vous citer un enseignement que j'ai appris des Chassidim qui l'explique de la manière suivante. Vous savez que David, c'est le chantre de la Bible. C'est vraiment l'psaume. C'est celui qui est capable de dire Tehillah. Celui qui est capable de dire qui est Dieu. Et il le dit bien. Et l'humanité ne s'y est pas trompée puisqu'elle a choisi d'instinct ce livre plutôt que n'importe quel autre livre pour dire l'psaume. Lorsqu'on dit les psaumes, c'est les psaumes de David. Bien. Eh bien, ce rabbin que je vous cite ici explique de la manière suivante. Imaginons, enfin je paraphrase un peu pour notre culture, imaginons un pianiste virtuose. Alors il joue du Chopin, je ne sais pas moi, du Mozart, tout ce que vous voudrez. Mais lorsque un pianiste joue du Chopin et que c'est une louange pour Chopin, alors on peut dire qu'il est pianiste. Vous voyez, alors il y a des différentes manières de réussir. Alors, explique de la manière suivante. Celui qui, lorsqu'il dit la louange de David, c'est une louange pour David, que ce soit lui qui l'a dit, de celui-là, on peut compter qu'il aura le monde à venir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, celui qui dit un psaume de David. Mais lorsqu'on entend dire le psaume de David, alors c'est une louange pour David d'avoir écrit ce psaume, enfin d'avoir chanté ce psaume. Et c'est pas de n'importe qui qu'on peut dire que c'est une louange pour David de dire un psaume de David. Je ne sais pas si j'ai réussi à vous faire comprendre ça. Eh bien, alors de celui-là, on peut dire qu'il a un niveau tel qu'on peut compter que sa conduite le mènera au monde à venir. Bon, si vous voulez, mais ça nous ferait occuper quand même du temps, mais je crois que c'est nécessaire. Je vous expliquerai aussi la deuxième, l'Imra. Celui qui fait quatre pas en Eretz Israël, on peut compter qu'il ira au monde à venir. Bon, vous savez, là, il y a tellement de touristes qui font plus que quatre pas. C'est des provisions. C'est que nous avons d'autres enseignements de la Gemara qui impliquent cette expression Arba Amot, quatre pas, quatre coudées, plus exactement. Et on dit que depuis que Dieu a créé le monde, il ne possède vraiment dans son monde que les quatre coudées de la Halakha, c'est-à-dire l'air, A-I-R-E, personnel de chacun lorsqu'il est occupé à élaborer la Halakha, c'est-à-dire à essayer d'obtenir la connaissance de ce que Dieu veut pour la conduite, et la conduite ça commence dans la marche. Et alors, à la limite, ça signifie celui qui s'occupe, qui est enfermé, si vous voulez, délimité par les quatre coudées de la halakha, mais en Eretz Israël, alors c'est déjà Madriga al Madriga, alors de celui-là on peut compter que c'est pas le dirigeant vers le monde à venir. Et ainsi pour d'autres enseignements analogues. Mais c'est là qu'était le principe, la question à laquelle répond cette liturgie. De qui, lorsqu'on entend la louange de Dieu, c'est vraiment une louange? Alors il y a des niveaux. Premièrement, des Yesharim, du Yashar, celui qui est l'homme de rectitude, l'homme de droiture. Et puis, il y a plus. La bouche ne parle que parce qu'il y a des lèvres. Alors le deuxième niveau est Upsifte Tzadikim Titbarach, et par les lèvres des justes, ça c'est la deuxième étape, Titbarach, tu seras béni. On te reconnaîtra comme source de bénédiction. Vous voyez les niveaux, Yachar, et ensuite Tzadik. Et puis, troisième niveau, ou Bilchon, Hasidim, Titkadash. Et par la langue, et ici, il n'y a pas seulement les lèvres, pour parler, il faut la langue. Et la langue, ça veut dire aussi le langage. Et par la langue des Hasidim, Hasid, c'est-à-dire des fervents, si vous voulez, ou des pieux. Voilà, j'ai changé l'alphabet, excusez-moi. Titkadash, tu seras sanctifié. Et puis encore un autre niveau, ou Kerev Kedoshim Tit Halal, Kadosh, ce qu'on va traduire provisoirement encore par saint. Et indépendamment donc de la bouche, le Yachar, des lèvres, le Tzadik, de la langue, le Hasid, il y a le Kerev. Kerev, ça veut dire le saint de ce qu'il y a dedans et qui s'exprime par le langage. et au sein du saint, du dedans, des saints, S-I-N-T, cette fois, Titralal, tu seras loué. Et là, on arrive au summum de la louange. Le mot qui dit la louange, Hallel, et nous savons notre part, du point de vue de l'hébreu, que ça signifie, au fond, définir. Hallel, dire la vraie louange de quelqu'un, c'est dire sa définition. Et pour qu'on arrive donc au sommet, c'est un principe connu, si on dit plus ou si on dit moins, on n'a pas vraiment loué celui qu'on a voulu louanger, il faut dire vraiment le nom de quelqu'un, mamash, pour qu'on ait dit sa vraie louange. Simplement, je vous ouvre une petite parenthèse très rapide, du point de vue de l'appui grammatical de cette indication, ça veut dire que les mots, les termes précédents qui avaient été employés, et qui sont des termes qui en français voudraient dire plus, titromam, exalté, titbarar, béni, titkadash, sanctifié, c'est encore moins que titharal, c'est-à-dire loué. Simplement, une indication que vous connaissez en grammaire, vous savez qu'en hébreu, l'article défini est la lettre he, et puis le mot qui suit, la première lettre du mot qui suit prend un dagesh, un point. Par exemple, donnez-moi un mot, n'importe lequel, à boker, le matin. Oui. Alors, on met un dagesh dans le bet, et les grammairiens nous disent que ça rappelle une lettre, la même, qui est tombée. Et lorsque le dagesh rappelle une lettre qui est tombée. Ça signifie donc qu'à la limite, la racine fondamentale d'où vient ce hé, article, c'est la racine hal, qu'on retrouve dans Hallel. Et c'est une question de Nafka, de définition simple. L'article défini veut définir. Et vous avez compris pourquoi Hallel, ça signifie louer. Ça veut dire dire la vraie définition. D'ailleurs, dans les langues sémitiques, c'est à peu près la même expression. En arabe, c'est el, hal en hébreu. Il me semble, je ne me souviens pas bien, mais enfin, c'est possible qu'en latin, il s'agit du ille. Ille. Le démonstratif, le définitif démonstratif, je ne sais pas comment dire, mais vous comprenez, qui a donné le français. Et c'est le hé hébreu, parce que c'était hal. Et alors, donc, halel, ça veut dire effectivement définir. Et alors, nous avons donc ces quatre étapes de l'acquis de ce que, grosso modo, la Torah nomme le projet de la moralité, mais en culture occidentale, la moralité proprement dite n'est que la tzadik, le juste. Ça voudra dire, j'aborde déjà les définitions, conformité à la loi. Le tzadik, le juste, c'est celui qui tombe juste avec la loi. C'est à ce niveau-là qu'en Occident, on a l'habitude de définir la moralité, mais ce même terme que nous appelons, nous, les valeurs, le projet du Créateur, le Ratzon Hashem, eh bien, à d'autres étapes. Et tant qu'on n'arrive pas au niveau de Kadosh, alors on n'a pas justifié le projet du Créateur. Alors, pour arriver bien à définir ce terme de tzadik, nous allons maintenant passer par un deuxième texte, qui est le chapitre 6 des Shmona Prakim du Rambam. Mais déjà, je vous signale que va apparaître un thème extrêmement important, puisque ce n'est pas par hasard que cette liturgie a été formulée de cette manière. Vous avez dû déjà remarquer Kaparela, le nom de Yitzhak. Yud, Tzadik, Het, Kouf. C'est-à-dire Yitzhak, hein? Le patriarche Yitzhak. Et nous aurons donc à avoir à l'esprit pourquoi la tradition a choisi l'identité de Yitzhak pour nous formuler ce cheminement de l'acquis de la moralité. Pourquoi c'est particulièrement chez lui que se perçoivent ces différentes étapes par lesquelles la créature se trouve être justifiée. Si vous voulez, c'est le thème de l'identité d'Isaac, en particulier, qu'il y a là. Au point de départ, il y a Abraham. Au point d'arrivée, il y a Jacob. Et ça, c'est clair, le point de départ et le point d'Abraham. Le point de départ et le point d'aboutissement. Celui qui a commencé l'histoire, son destin est clair, il est sauvé. Celui qui achève l'histoire, son destin est d'autant plus clair, il est aussi sauvé. Mais celui qui entre en cours d'effort, celui qui va du commencement à la fin, si j'ose dire, eh bien, et c'est le statut de tout un chacun, nous sommes tous des deuxièmes, entre le premier et le dernier. Hein? Et c'est là que se pose effectivement le problème de la destinée morale, et c'est à travers l'identité Isaac que a été perçu donc cet effort de la moralité qui justifie la créature. Nous aurons donc cela à l'esprit, mais je veux tout de suite aborder le texte de Maïmonide. Est-ce que jusqu'à présent c'est clair du point de vue du déroulement de l'exposé? C'est-à-dire, je vous rappelle très brièvement, il y a différentes identités du juste dont l'un est appelé tzaddik. C'est le gachar, que l'on traduit par l'homme de rectitude, le tzaddik, conformité à la loi, nous avons déjà découvert cela. Et puis, là aussi, il y a X étapes. Mais enfin, en schématisant, ensuite le chassid, le pieux, le fervent, il y a quelque chose de plus, déjà, il y a un degré supplémentaire. Et puis le kadosh, celui qui a abouti, on traduit par saint, mais qui est conforme au projet du Créateur. C'est cela qui s'appelle être kadosh. Kedoshim tiyu ki kadosh anu Hashem Elokim. Eh bien, il y a un texte extrêmement important de Maïmonide à ce sujet, et où il compare le mérite réciproque du tzaddik et du chassid. Et c'est cela qui va nous faire apparaître une définition suffisamment claire de ces différents niveaux et de ces différentes étapes. Alors, bien entendu, comme je vous disais tout au début, nous avons utilisé cette étude, surtout méthodologiquement, pour vous permettre de disposer de cadres à travers lesquels vous récapitulerez, bien entendu, les différentes études de détail que vous aurez d'autre part. Enfin, le livre où se rencontre et s'étudie essentiellement la morale traditionnelle juive, c'est les Pirkei Avot, et en particulier avec les commentaires. Les Pirkei Avot est essentiellement celui du Maharal, qui est celui qui nous est le plus disponible, le plus apte à notre forme de culture aujourd'hui. Et justement, Maïmonide a fait un livre de préface au Pirkei Avot, qui est le traité de morale talmudique, et là, il pose un certain nombre de questions, dont celle qui va nous préoccuper. Il suffit d'ailleurs de... Quand ça serait peut-être un peu long de lire tout le texte, enfin, je vous invite à le retrouver et à l'étudier en détail, ou à le demander à vos professeurs dans le courant de l'année. C'est donc le sixième chapitre des Shmona Pratim. Voilà quel est d'ailleurs le titre du chapitre. C'est Behefresh Asher Ben Hehasid Hameoule ou Ben Akobesh et Tisro Vehamoshel Ben Ash. Ça veut dire de la différence qu'il y a entre le Hasid, l'homme que l'on a traduit par de piété ou de ferveur morale, Ameaoulé, le chassid supérieur, le chassid de bonne qualité, si vous voulez, ou ben à Kovesh et Titro vers Monchel ben Arche. Et entre celui qui doit faire effort sur lui pour subjuguer ses instincts, Kovesh et Titro vers Monchel ben Arche, qui doit dominer sur sa personne, sur sa conscience pour devenir tzadik. Et vous voyez déjà comment le problème est posé dans ce chapitre. Mais apparaît déjà une définition de ce qu'est tzaddik et une définition de ce qu'est chassid. Les deux se définissent par rapport à la loi, mais dans une attitude radicalement différente. On peut être tzaddik même si de sa propre nature, on ne voudrait pas par soi-même ce que la loi demande. On est soumis à la loi. Et il suffit, en vérité, en fait, d'accomplir ce que la loi demande pour être juste, pour être tzaddik. Mais il y a une première sorte, si vous voulez, de tzaddik de la loi, qui s'appellera Stam Tzaddik, et comme dit ici Maïmonide, Kovesh et Yitzro, Moshel Ben Afcho, c'est-à-dire qu'il doit faire effort pour obéir à la loi, il obéit, mais il fait effort. Ça signifie donc que de son propre élan, de sa propre nature, c'est plus que cela, de son propre vouloir, il ne voudrait pas ce que la loi demande. Son instinct, si vous voulez, sa tendance, le mènerait ailleurs. Mais voilà, la loi demande, et nous sommes soumis à la loi, et par conséquent, on fera ce que la loi fait. Mais dans une atmosphère intérieure qui n'est pas précisée, qui peut être une atmosphère de conscience malheureuse. Mais de toutes les façons, c'est tzaddik. Tandis que le chassid, tel qu'il va nous être défini par Maïmonide, est celui qui de lui-même veut ce que la loi veut. Si vous voulez, dans le résultat est le même. Un tzaddik et un chassid, grosso modo, parce qu'il y a quand même des nuances dans le comportement. Mais un tzaddik et un chassid sont tous les deux des justes justifiés par rapport à la loi. Mais l'un doit faire effort pour y arriver, alors que l'autre, c'est Echomrim. Comment on peut dire ? C'est aisé. Ben, c'est... Alors voici comment Maïmonide pose ce problème. En disant, apparemment, il y a une divergence d'opinion entre les philosophes et les maîtres de la tradition juive. Premièrement, l'opinion des philosophes, c'est que le chassid est bien supérieur au tzaddik. Pourquoi ? Parce que le chassid, c'est de lui-même, sa nature coïncide avec la valeur morale, alors que le tzaddik, au fond, est rachat. Puisqu'il faut qu'il fasse effort pour devenir tzaddik. Ça veut dire sa nature, son identité, ne veut pas ce que la loi demande, mais le scrupule de la conscience morale, comment dire, et puis toutes les nuances, ça peut commencer par la peur du châtiment, mais en fin de compte, c'est le respect des valeurs, et nous sommes assez grands pour percevoir qu'une valeur, c'est une valeur, même si l'instinct nous demande d'aller ailleurs. Mais ce que dit le philosophe, cité par Maïmonide, c'est que, dans sa nature, eh bien, c'est péjoratif. Il veut le mal, mais il fait le bien. Il fait le bien, mais il veut le mal. Ça, le tzaddik peut être un tel homme, celui qui fait le bien, bien que voulant le mal. Et alors, pour la philosophie, c'est-à-dire pour la raison humaine, c'est évident, un chassid qui se définit comme voulant par lui-même ce que la loi lui impose, c'est bien entendu supérieur. Première thèse de la philosophie. Bon. Et Maïmonide ajoute tout de suite, d'après nos maîtres, c'est l'inverse. C'est le contraire. Parce que, et non seulement cela, dit Maïmonide, la Guémara enseigne que le mérite se définit, s'évalue par rapport à l'effort qu'il faut faire pour devenir tzaddik. Et par conséquent, d'un certain point de vue, là nous sommes à un moment paradoxal, le tzaddik qui se définit uniquement par rapport à la loi est d'autant plus grand que sa nature serait contraire à la loi. Si nous définissons la moralité par rapport à l'adéquation à la loi, plus grand est celui qui, de par sa nature, ne serait pas adéquat à la loi et qui fait cependant l'effort d'être adéquat à la loi. Et par conséquent, un tzaddik est plus près du trône de la gloire, si j'ose dire, qu'un chassid. C'est paradoxal. Mais Maïmonide a tenu à citer, peut-être que nous aurons le temps de lire le chapitre tout à l'heure, quoi qu'il en soit, vous l'étudierez j'espère d'autre part, Maïmonide a cité ces deux niveaux. Premièrement, que tout l'enseignement de nos maîtres privilégie celui qui doit faire effort, qui doit lutter contre son instinct pour être compatible à la loi, qu'à celui pour qui ce serait... Un de mes maîtres m'a expliqué cela en me disant que Maïmonide ici, comme d'habitude, la vraie explication passe toujours par l'humour dans la sagesse. Que Maïmonide était plein d'humour. Parce que l'objection qu'il faisait au philosophe, c'est que le philosophe feint de croire que ça peut exister un homme qui veut de lui-même ce que la loi veut. C'est-à-dire ça n'existe pas. Et vous avez compris le problème. C'est-à-dire dans le monde de la réalité, c'est normal qu'il faille faire effort pour vouloir ce que veut la loi. Est-ce que c'est clair? Et c'est la raison pour laquelle nos maîtres sont réalistes, sont beaucoup plus philosophes que les philosophes, puisqu'ils disent, soyons sérieux, si jamais ça existe, ça, un chassid, c'est-à-dire quelqu'un qui de lui-même veut ce que la loi veut, c'est un être exceptionnel. C'est pas un homme, c'est un chassid. Et cependant, nous reviendrons d'ailleurs sur ce point-là, parce que malgré tout, il est plus haut dans le progrès qui mène à la sainteté. Cependant, Maïmonide ajoute encore un argument en disant, et non seulement cela, nous trouvons plusieurs enseignements dans le Midrash et dans la Gemara qui disent ceci. L'homme n'a pas le droit de dire « Je n'ai pas envie de ce que la Torah m'interdit. » Mais il doit dire, c'est un commandement, « J'ai envie, mais qu'est-ce que je peux faire ? Dieu m'a interdit. » Et que c'est cela la vertu. Alors, ça renforce encore que même s'il arrive que quelqu'un se croit chassid, il doit devenir lucide et savoir qu'il n'a pas le droit d'être chassid. Parce que sinon, je vais trop vite. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ce texte que Maïmonide cite est très important, nous le lirons peut-être aussi tout à l'heure. Et que l'homme n'a pas le droit de dire « Je ne peux pas manger un mélange de lait et de viande. Je ne peux pas manger ces nourritures impures que nous ne mangeons pas. Je peux. » Il doit dire « J'ai envie, je peux. » Efchi. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Dieu m'a interdit. Et c'est là qu'il cite cette Mishnah importante que le salaire de la vertu est plus grand s'il est fort pour lutter contre ses instincts a été plus grand. Et ça veut dire que si la pédagogie religieuse et morale a été tellement efficace qu'elle nous a enlevé l'envie d'avoir des mauvaises envies, il faut se les récupérer pour pouvoir... Être... Parce que effectivement, on arrive à. Et là, voilà. Allez, attendez, j'ai pas fini.